Merci beaucoup, on vous retrouve bien entendu à 22h. Et toute cette heure, eh bien, on va la passer en compagnie de quelqu'un dont on connaît bien la voix, très bien le corps aussi, mais pas forcément le cœur. Et justement, il va beaucoup s'ouvrir lors d'un entretien exceptionnel qui sera diffusé en deux parties. La première, c'est ce soir, mais si, vous savez très bien de qui je veux parler.
She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. She walks like him, talks like him too. She can suss out the spy, even if it's you. She trusts no one, not even herself. She makes no sudden moves, chalks it up to stealth. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. Nuts melt in her mouth, but not in her hand. No need to figure it out. She just likes M&M's. Sweet to the taste, screaming you're insane, you're insane. Didn't make the rules, so don't blame me. Most fools gravitate to vanity, and her sanity is insanity. Driving off or making you feel guilty. Just let her be your James Bond.
Elle ne fait confiance à personne, même pas à elle-même. Elle veut être ton James Bond. La voix, vous l'avez reconnue, enfin j'imagine, celle de Iggy Pop, comment en douter, dans un titre extrait d'un album plutôt inattendu qui vient de publier et qui s'appelle Free. Inattendu, pourquoi ? Parce que c'est un enregistrement où Iggy, avec une humilité qui ne surprendra que ceux qui le connaissent mal, s'est effacé derrière un autre musicien. En l'occurrence, derrière les mots et les sons d'un musicien en âge d'être son fils, le trompettiste de jazz Laron Thomas, également chanteur et rappeur. Laron Thomas a écrit, orchestré et réalisé 8 titres sur 10 de cet album qui s'appelle donc Free. Alors à cette occasion, j'ai eu le privilège, parce que c'en est un, de m'entretenir plus d'une heure avec Iggy Pop en personne. Ça s'est passé en mai dernier, j'ai pris un avion pour Miami, la ville où il habite depuis le milieu des années 90, une ville qui lui a sans doute d'ailleurs sauvé la vie. C'est la ville où il s'est refait une santé, où il a arrêté de fumer, il s'est mis à nager tous les jours et à manger sainement, et puis aussi où il a rencontré sa nouvelle femme, Nina Alou, qui, selon toute apparence, lui a fait beaucoup de bien. Alors c'était pas chez lui, dans sa maison, le management avait loué pour cette journée d'entretien programmée, je suis passé en premier, c'est une grande chance, une vaste villa où on aurait pu loger 15 personnes. Alors je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je patientais dans cette villa vaguement mauresque, aux murs blancs et au plafond haut comme celui d'une chapelle, et Iggy est arrivé en tenue de sport, t-shirt, pantalon de jogging et tongs, conduit par son assistant au volant de sa Rolls-Royce décapotable gris argenté. Alors ce qu'on constate tout de suite, c'est son handicap. Il a, c'est notoire, une jambe plus courte que l'autre, ce qui fait qu'il se déhanche fortement à chaque pas, un phénomène, dit-il, accentué avec le temps par les séquelles d'une blessure d'enfance au football américain et surtout par l'effet d'une arthrite chronique. Alors, je me suis retrouvé face à lui dans un grand salon vide et je savais pas trop ce qui allait se passer. Et l'essentiel, enfin ce qui m'a en tout cas frappé d'emblée, c'est que Iggy Pop, et ça c'est un truc que j'ai ressenti à la première seconde, c'est sans doute, sûrement même, une des personnes les plus chaleureuses, souriantes et humbles aussi, que j'ai eu la chance de rencontrer dans un cadre professionnel, bien sûr. Il vous adresse souvent un large sourire, épanoui, enfantin. Il a ses grands yeux bleus, naïfs, qui vous fixent, qui vous transpercent, et parfois irradie de lui, même tout le temps d'ailleurs, irradie de lui une bonté sereine qui vous procure immédiatement un effet très bienfaisant. Alors Iggy s'est emparé du micro de mon magnétophone professionnel et il a pris le contrôle des opérations, ce qui explique que parfois le son n'est pas idéal. J'ai commencé par l'interroger sur les premières paroles surprenantes qu'on l'entend proférer d'une voix basse et sourde dans ce nouvel enregistrement donc qui s'appelle Free. I want to be free. Je veux être libre. Comme si Iggy Pop confiait une aspiration qui, à ce jour, était demeurée inassouvie. Ce qui m'a surpris, et d'ailleurs je lui ai dit parce que, à mes yeux, Iggy Pop a toujours représenté l'incarnation de la liberté absolue. Alors de quoi, et c'était ma première question, lui reste-t-il à se libérer, à se délivrer en 2019, à l'âge de 72 ans?
Je me doutais que tu allais me poser cette question, pas que toi d'ailleurs me pose cette question. Parce que c'est une question légitime. La vérité toute nue, c'est qu'il y a un immense fossé entre l'image qu'on a de ma vie de l'extérieur et la vie que j'ai vécue, moi, vue par moi-même. J'ai pu arriver à aménager des moments de liberté dans la vie, mais j'ai toujours dû me battre pour ça. Toujours j'ai eu un sentiment d'horreur quand on m'imposait quelque chose, qu'on m'enfermait, qu'on me mettait en prison. Alors quand j'ai enregistré ces paroles, c'était mon sentiment. À ce jour-là, depuis, je me sens, disons, plus libre à 5% qu'il y a quelques mois, quand j'ai enregistré. C'est un morceau intéressant qui a été créé par Sarah Lipstadt, connue sous le nom de Novella, et elle crée cette musique sur sa guitare, Et elle peut la jouer telle qu'elle sur la scène. Elle est seule avec sa guitare sur scène. Et puis Liron Thomas est venu pour jouer de la trompette sur le morceau. C'est très beau. On a utilisé cette même piste à l'origine pour le poème de Dylan Thomas, qui est à la fin de l'album, qui s'appelle Gently. Mais il y avait trop de mots. J'avais pas envie de prendre trop de place. Il me fallait une idée simple, et elle est venue de mon fort intérieur.
Mais pour revenir à ce que tu disais au début, est-ce que tu as toujours l'impression qu'à ton âge, tout ce que tu as traversé, est-ce que la liberté n'est pas quelque chose d'acquis une fois pour toutes?
Non, non. Comme tout le monde. On tente de se débarrasser de ce qu'on peut et de jouer des coudes. Il faut bien survivre. Donc il faut faire un peu des deux.
Dans un des derniers shows à la radio, t'as passé un disque de The Divine Comedy en disant que t'avais jamais entendu parler de lui. Ben moi, c'est pareil. Liron Thomas, je sais pas du tout qui c'est. J'ai jamais entendu parler de lui. Et comment tu as retrouvé ce incroyable musicien, trompettiste génial, enfin. Et en plus, t'as choisi de chanter les mots qu'il écrivait.
C'est le critique de jazz Ben Ratliff qui écrivait sur le jazz pour le New York Times il y a longtemps, et c'est un ami. Puisque j'avais cette émission, il m'a envoyé quelques morceaux avec un petit mot. Des morceaux que Liron fait sous le nom de Pan Amsterdam.
They were very relaxed.
Des morceaux très relax, d'influence R&B, des riffs, des boucles rythmiques, et il faisait du rap plein d'humour. Et à la fin de chaque morceau, incroyable, un solo de trompette à tout casser, 20 secondes. Et moi je fais « wow ». Ben avait mis un petit mot. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais voilà un mec qui sait souffler dans une trompette. J'ai voulu l'inviter dans mon émission. Je cherche toujours des nouveautés. Et j'ai demandé à Liron de venir. La BBC insiste, comme ils sont producteurs de l'émission, pour que tout ce que je programme soit dans le commerce. Sinon, je serais là, dans la rue, à enregistrer les clodos sur la page. Il faut au moins que ça soit disponible sur SoundCloud. Alors je dis, mec, mets ta musique sur SoundCloud, et moi je t'invite. On a commencé à échanger. Et en fait, on n'a jamais parlé de ça, mais je crois qu'il m'a séduit avec le temps. J'ai beaucoup écouté sa musique. Et son histoire, en fait, elle est très simple. Pendant des années, il a joué de la trompette en tant que sideman pour des gens comme Lauryn Hill. Jamais il n'a trouvé la reconnaissance, ni la liberté artistique, ni la stabilité financière dont il avait besoin. Alors il essayait de prendre un nouveau départ. Et j'écoutais sa musique et je lui dis, ben, je pourrais te produire. Comment est-ce que je peux trouver un vaste public pour ce mec? Au final, j'ai été volontaire pour chanter une chanson. Et il m'a dit oui. Et puis là, il a commencé à m'envoyer des chansons avec le recul que... Il y avait Glow in the Dark, très sophistiqué, très beau comme morceau. Et puis, il a commencé à m'envoyer des morceaux comme Dirty Sanchez, James Bond. Mais c'était sans trompette, juste le chant. Et je me dis, mais comment est-ce que je vais lui expliquer? Personne ne va te laisser chanter ça, mec. Donc, pour commencer, remets de la trompette.
Very Good Trip sur France Inter.
Et me renvoie donc les morceaux, parce que le jazz est un milieu très coincé. C'est pire encore que le rock, qui aussi est très coincé comme milieu. Hein. C'est plein de gens super conservateurs qui veulent rien entendre de nouveau. Et ce type, je me dis, il va se faire un suicide professionnel. Mais bon, j'écoutais ces morceaux et c'était drôle. Et bref, on a fini. Je lui ai dit, bon, allez, viens donc à Miami et je t'en chanterai un ou deux. Et à la fin, j'en chante beaucoup. Mais j'ai plaisir avec ces mots. Et puis c'est un peu comme Sinatra. Je pense qu'il devait penser la même chose. Quand il tombait sur un bon texte, il devait se dire, qu'est-ce que cet auteur veut dire? Alors moi, j'ai essayé de mettre mon émotion à moi dedans. Parce que moi, je vois bien qui est la jeune ambitieuse de James Bond. Ou l'ironie de Sonali, qui est une chanson qui raconte à quel point on se force à rester dans nos propres pays, qu'on ne sait pas traverser les frontières. Il y a une chanson de rupture qui s'appelle Page. Ça m'a plu, quoi. On a travaillé, il y a eu des allers-retours. J'ai aimé tout de suite sa musique et j'ai eu plaisir à le faire. Et puis à un moment, je lui ai dit, écoute, si tu veux, je peux le sortir, je peux produire, en fait, l'album. Je t'achète ta musique, tu seras bien crédité, je te fais un bon contrat. Et puis je t'écrirai quelques textes. Voilà, c'était une collaboration. Voilà. Et avec Free, des gens vont certainement m'entendre chanter la liberté avec ce ton. Et ça va bouleverser leur vie. Pour certaines personnes. Et c'est ça la musique. C'était l'idée. J'avais envie d'être interprète et de faire de la poésie.
Find me levitating. bet you'll think that I do it alone. To explain all this means further explaining. Positive thoughts make a brighter you. Your sense of community is going to kill you.
Note très intense du trompettiste texan Laron Thomas, principal artisan du nouvel album de Iggy Pop, Free. C'est en effet lui qui a écrit 8 titres sur 10 de cet enregistrement, paroles et musique. C'est lui qui a réglé les orchestrations et supervisé les séances. Le titre s'appelait Glow in the Dark. Alors, il faut que j'apporte un petit rectificatif à ce que a traduit notre excellent camarade Harold Manning. En fait, il se trouve que Iggy est une sorte de confrère à moi, puisqu'il anime sur la BBC une émission de radio qui s'appelle Confidential, et en fait ce qu'il voulait c'était passer la musique de Laron Thomas, non pas l'inviter, il aurait pas pu le faire. En revanche, ce qu'il est arrivé à faire, c'est le faire venir à Miami et lui faire enregistrer cet album. Cet album qui est en fait le premier album de Iggy Pop en 50 ans de carrière, bah oui, j'ai bien compté, à être dominé par le jazz. Ce que j'ai fait remarquer à Iggy en lui disant que même si le jazz avait été présent dès le début dans sa musique, hein, je pense au saxophone de Steve McKay au sein des Stooges, eh bien il n'a en fait jamais réalisé un véritable album de jazz. Ou alors peut-être je me trompe, et est-ce qu'il y a des enregistrements que j'ai oubliés ou que j'ignore?
Non, moi, j'aspire pas vraiment à faire partie de ce club. Je reste ouvert. J'ai enregistré des voix avec un trio de jazz. L'an dernier, c'est sorti sur le titre de Loneliness Road, je crois. Trois titres avec Jamie Saft, Steve Swallow et Bobby Privet. C'était en trio. Sur un label qui s'appelle Rare Noise, du jazz expérimental. Mais bon, je
ne
suis pas Melody Gardot.
Mais ce n'était pas Sinatra non plus.
Mais le genre m'intéresse. Et je suis en contact avec plein de gens de ce monde-là, pour d'éventuelles collaborations.
Et tu as dit dans une interview au New York Times que le rock'n'roll n'a plus de pertinence. On peut dire la même chose du jazz.
Oui, quand il reste trop coincé. C'est triste, c'est triste comme un mariage ou un enterrement. Il faut que le jazz sorte de ses ornières. Et pour moi, le hip-hop et les médias sociaux combinés ont donné un bon coup de pied au cul à ces genres musicaux, franchement.
Je vais te dire un truc que j'ai ressenti. Je ne sais pas si c'est conscient ou pas de ta part. Des schémas électroniques et du jazz ont beaucoup influencé le dernier album de Bowie. Est-ce que tu dirais que cet album de Bowie t'a inspiré, même sur un plan inconscient ?
J'y ai réfléchi l'autre jour, et c'est bien possible. Mais pas consciemment. J'ai remarqué, quand j'ai entendu le single de cet album, David était encore vivant, et ma femme a entendu cette chanson sur son téléphone, dans un avion. C'était celle sur les bougies. Celle qui a une partie de clavier extraordinairement puissante. Et là, je sais que c'est lui qui la joue. Hein. C'est pas un musicien de jazz, hein. Je reconnais son style. Et c'est très beau. Mais quand j'ai entendu le disque entier, c'était pour moi pas seulement son utilisation des musiciens de jazz. Là, c'est vrai que ces fils de pute savaient jouer, hein, de la musique, alors que la plupart des musiciens savent pas, point. Ils sont artificiellement corrigés, en post-production, quoi. Mais ce qui m'a donné cette impression, c'est mon émission de radio, parce que pour faire une bonne émission, je m'en remets vraiment à l'actualité. Pas tout le temps. Il faut que ce soit de la musique que moi, j'aime écouter. Et je reviens toujours à On the Corner de Miles Davis, ou surtout à Roy Ayers. David Bowie lui a piqué son groupe. Carlos Alomar, George Murray, Dennis Davis, c'était le trio de Roy Ayers. Bien sûr, ils avaient bossé sur Un rue Sésame, et leur musique, elle était magnifique. J'avais invité sur The Idiot et même sur Lust for Life. Les Sales Brothers, leur père, il avait travaillé avec Buddy Rich. Et moi, c'est sûr, la moitié de ce que je sais sur la vie, je l'ai appris de quelqu'un de bien. De passer du temps avec David Bowie et les gens autour de lui. Et les observations de ce monde que je n'aurais jamais pu découvrir par moi-même. C'était bien.
To see. stretching tails to necks of falling down. It's nothing to me. It's nothing to see. If I'll never see the English evergreens I'm running to, it's nothing to me. It's nothing to see.
Excellent musicien de jazz nord-américain Donnie McCaslin au saxophone et Ben Mander à la guitare qui a accompagné David Bowie dans son dernier et magnifique album paru, vous vous en souvenez sûrement, quelques jours après sa mort survenue au début de l'année 2016, un album splendide qui s'appelait Black Star, en un seul mot, et cette chanson qu'il avait d'ailleurs improvisée en studio s'appelait Dollar Days. Alors j'ai fait remarquer une chose à Iggy Pop lors de ce long entretien que, je vous le rappelle, il a accordé à France Inter en mai dernier à Miami. Dans les paroles de ses nouvelles chansons, il y en a deux qu'il a écrites lui-même, Free, The Dawn, même une troisième, hein, Love's Missing, certaines paroles sont de lui. On l'a entendu d'ailleurs la semaine dernière dans Very Good Trip. D'ailleurs, dans ces paroles-là, comme dans celles de Aaron Thomas, il y a des images qui reviennent tout le temps de crépuscule, de fin, et on sent que la mort est proche. On a cette impression qu'il regarde la fin en face, qu'il la fixe. Alors je lui ai rappelé qu'il avait perdu ces dernières années beaucoup d'amis et de collaborateurs proches, David Bowie bien sûr, mais aussi les frères Ron et Scott Ashton avec qui il avait créé les Stooges dans une banlieue de Détroit il y a plus de 50 ans. Alors je lui ai demandé cette chose tout en lui présentant un peu mes excuses, parce que c'était une question sans doute bizarre ou vaguement gênante. Est-ce qu'il avait encore, pour ainsi dire, des conversations secrètes avec ses défunts, s'il continuait à penser à eux, et même s'il se surprenait pas parfois à les interroger, à les consulter, comme s'ils étaient encore là, encore présents? Après tout, aux oreilles de quelqu'un qui a joué le rôle d'un zombie dans le dernier film récent de son ami Jim Jarmusch, The Dead Don't Die, c'était peut-être pas une question si aberrante.
Well, no, this is funny.
Ça, c'est marrant.
You're not the old, you're the second person.
Tu es le deuxième a parlé de cette idée avec moi ce mois-ci. J'étais en correspondance avec Mauricio Catalan, l'artiste italien. On parlait de faire une édition spéciale de l'album. Et il m'a demandé d'enregistrer une conversation téléphonique avec quelqu'un que j'ai perdu, avec quelqu'un de mort. C'est la même idée. Ça peut être toi quand tu étais jeune, ça peut être quelqu'un qui est mort. Il veut humaniser l'image du rocker. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens récemment, j'ai l'impression qu'il y a des paris sur ma mort prochaine. Ça discute beaucoup là-dessus. Il est vivant? À quel point? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce que ça me raconte, finalement, et beaucoup de gens que je connais sont, meurent en ce moment. Beaucoup de gens, on m'appelle. Et c'est toujours l'occasion de faire un commentaire. Et ça revient tout le temps. Beaucoup de gens meurent. Et donc on me demande de réagir. Alors je dis, puisqu'on m'a donné la vie, quelle tristesse ce serait de ne pas en profiter. J'essaie de faire des choses qui m'amusent. Et c'est ça qui m'a conduit à ce disque.
Pour revenir à ce que j'évoquais, est-ce que tu continues à avoir un dialogue avec des gens qui ne sont plus là? Est-ce que tu imagines ce que les frères Ashton des Stooges te diraient? Est-ce que tu as une communication avec des gens comme ça?
Les gens dont j'étais proche et qui ont disparu m'aident à prendre des décisions. Parce que on reste formé par les autres. J'ai passé, je ne sais pas combien d'années, à travailler avec les frères Ashton, les Stooges, David Bowie aussi, des tas de gens. Mes épouses, mon manager, je le connais, on a commencé à travailler, je crois, dans ces rôles-là depuis 1981. Mais non, je n'ai pas de petite voix intérieure comme ça. J'ai des rêves étranges, sur tous, pas trop souvent. Pas trop souvent.
Okay, there's this outstanding poem by Lou Reed.
Il y a ce très très beau poème de Lou Reed. We are the people.
Extraordinary words, but to my knowledge, you've never ever.
Mais à ma connaissance, t'as jamais interprété les paroles de Lou Reed. J'ai raison, j'ai tort.
So, he was also called the godfather of punk.
Lui aussi, on l'a appelé le parrain du punk. Même si cette expression, c'est plutôt à toi qu'on l'a appliquée. Mais c'était quoi votre relation? Vous étiez des rivaux, des frères, des amis, c'était quoi?
Non, il me tolérait. Et à peine. Il me tolérait. Je lui rendais visite dans son appartement. Parfois, j'étais trop stone. Devait être à la fin des années 70. J'allais voir ce spectacle à plusieurs reprises. De temps en temps, on se faisait un salut amical si on partageait la même scène dans un festival. Il me faisait des compliments. Je crois qu'il m'a regardé évoluer. Il y a eu un concert qu'on devait faire ensemble dans la première version du Rock and Roll Hall of Fame. C'était dans un stade à Cleveland. Il y avait des vieux rockers et puis ils ne vendaient pas leur place. Alors ils ont invité le grand groupe, le gros groupe à la mode, je ne sais plus le nom.
Soul Asylum. Je sais pas, vous trouverez ça, je me rappelle pas. Et ils ont dit, d'accord, on vient, mais il faut que, on va accompagner Iggy Pop et Lou Reed.
Lou Reed. Iggy Pop,
mais seulement s'il ne chante aucune chanson des Stooges. J'ai dû faire deux couplets de Backdoor Man. Et puis ce soir, ils ont décidé, de faire I Wanna Be Your Dog. Et Lou m'a dit que c'était pas mal. Lou Reed, c'était un citadin, un homme sophistiqué. On est allé dîner après le concert. Et je n'avais pas encore acquis ma vaste connaissance d'aujourd'hui.
Du vin français.
Et alors, il y avait une Française à la table d'à côté, et je lui ai demandé de choisir le vin. Et Lou me dit, tu demandes pas à une fille de commander du vin. Pas cool, le mec.
Vous n'étiez pas pareil.
Mais c'est quelqu'un qui a été incommensurablement important pour moi. Un modèle pour mon écriture et pour placer des paroles. Je crois qu'il est vraiment parti de Bob Dylan, mais il est allé plus vers la parole et la simplicité. Il n'avait pas peur d'être simple. Et un amour sincère pour le rock, sans essayer d'être aussi trash que les musiciens qu'il aimait. Il y a une super interview de lui où il défend Louis Louis par les Kingsmen. Zappa avait dit « Oh, c'est de la merde ». Frank Zappa, c'était un grand type à sa façon. Mais bon, il ne pouvait pas faire Louis Louis comme les Kingsmen.
Oh, baby, I'm a back dog. Vertigo Trip.
Il en parlait tout à l'heure, c'était rehaussé par une citation de I Wanna Be Your Dog, la version par Iggy Pop d'un des classiques du blues, le Salas Backdoor Man, immortalisé par Howlin' Wolf, et que Jim Morrison et les Doors interprétaient souvent sur scène. Bah oui, Salas, hein, je suis le gars qui entre par la porte de derrière, les hommes ne sont pas au courant, mais les gamines, elles savent de quoi je parle. Iggy l'avait chanté sur scène, il nous l'a dit, au milieu des années 90, pour un concert organisé par l'institution du Rock and Roll Hall of Fame à Cleveland dans l'Ohio, à la demande express du groupe hardcore du Midwest Soul Asylum, bien oublié mais qui triomphait dans ces années-là. Alors il fallait que j'interroge Iggy sur un des passages les plus saisissants de son nouvel album Free, c'est sa récitation d'un poème méconnu de Lou Reed, écrit en 1970. Méconnu et pour cause, Lou Reed ne l'avait récité lui-même qu'une fois au cours d'un récital au temps où il n'était qu'un poète et chanteur confiné à l'underground new-yorkais. Il existait bien un enregistrement amateur que les spécialistes évidemment connaissaient, mais on a pu le lire pour la première fois ce poème grâce à la publication d'un recueil posthume de Lou Reed paru en 2018 qui s'appelle « Do Angels Need Haircuts ?»« Les anges ont-ils besoin d'aller chez le coiffeur ?» Et ce poème, « We are the people », j'ai moi-même pu le découvrir en écoutant Iggy le scander, et je lui ai dit d'ailleurs, j'en ai eu le souffle coupé, parce que ce poème de Lou Reed semble annoncer avec 45 années d'avance l'Amérique de Donald Trump. Il faut que je vous cite un passage, c'est impressionnant. Nous sommes le peuple sans droit, nous sommes le peuple qui n'a connu que le mensonge et l'absence d'espoir, nous sommes les victimes d'un manifeste silencieux qui proclame la superficialité et le vide pesant qui nous emplit. Nous sommes le peuple sans chagrin qui enjambe la fierté nationale et l'indifférence pour en arriver à une parodie d'instinct. Nous sommes le peuple dont le désespoir est au-delà de toute émotion parce qu'il défie la pensée. Des paroles d'ailleurs qui, bien au-delà de l'Amérique de Trump, peuvent aussi bien plus largement décrire ce que certains peuvent ressentir dans nos sociétés modernes de ce début du 21e siècle. Et j'ai demandé à Iggy s'il avait déjà interprété des paroles de Lou Reed et comment il était tombé sur ce texte.
That piece just happened by accident. What happened was,
ça s'est passé par accident.
The music to that,
la musique, quelque chose que j'avais commandé à Liron pour un poème qui s'appelle The Dawn, qui est à la fin de l'album. Et je lui ai dit, je veux que tu me fasses quelque chose dans la ligne de Miles Davis. Ascenseur pour l'échafaud, voilà. Un superbe disque. Et il m'a amené ça, il m'a donné ça. Et moi j'ai écouté la musique et voilà, le poème est venu comme ça. Mais ça marchait pas, c'était trop déprimant. Et la musique, elle était tellement magnifique. J'avais pas de paroles. Il fallait finir le disque. Et un producteur qui s'appelle Don Fleming m'a envoyé un recueil de poèmes de Lou Reed. Et je l'ouvre. Et paf, je tombe dessus, la première page. Je lis le texte et je me dis, putain de merde. Mais qu'est-ce qu'il écrivait bien, le mec? C'est celle-là de 70, je savais pas.
C'est incroyable parce que ces paroles qui ont été écrites par Lou Reed en 1970 semblent prophétiser l'Amérique de Trump d'aujourd'hui. C'est saisissant.
Mais oui, quand j'ai lu ça, je me dis, mais ça, c'est aujourd'hui. Tu sais qu'il y a un enregistrement de sa voix qui lit ce recueil. Je l'ai écouté, je me suis dit, c'est super, c'est historique, mais moi je peux faire autre chose. Laissez-moi essayer autre chose. Mais moi je ne connaissais pas ce recueil parce que moi j'étais un gamin qui venait du rock. Patti Smith, elle connaissait parce qu'elle était présente à ses lectures. Elle venait de ce monde-là.
Mais tu as ralenti le rythme. Parce que lui, quand, dans l'enregistrement qu'on connaît, qui est apparu sur le net, il dit ça de manière très nerveuse, très hachée. Moi, j'ai écouté ça au casque, j'ai arrêté tout ce que je faisais, j'ai été tellement impressionné.
Oui, c'est mentionné ça dans le livre qui est sorti. Et je crois que c'est dans un de ces recueils, le magazine Atlantic, The Atlantic, je crois. Et il disait, maintenant je suis poète, alors j'arrête le rock. Mais il était torturé, comme moi, et comme nous tous, par la merde qui nous entoure dans ce métier. Pourquoi est-ce que les gens écoutent cette merde sentimentale alors qu'ils pourraient l'écouter moi? C'est humain.
We are the people without land. We are the people without tradition. We are the people who do not know how to die peacefully and at ease. We are the thoughts of sorrows, endings of tomorrows. We are the wisps of rulers and the jokers of kings. We are the people without right. We are the people who have known only lies and desperation. We are the people without a country, a voice, or a mirror. We are the crystal gaze returned through the density and immensity of a berserk nation. We are the victims of the untold manifesto of the lack of depth, of full and heavy emptiness. We are the people without sorrow, who have moved beyond national pride and indifference to a parody of instinct. We are the people who are desperate beyond emotion because it defies thought. We are the people who conceive our destruction and carry it out lawfully. We are the insects of someone else's thought, a casualty of daytime, nighttime, space, and God, without race, nationality, or religion. We are the people, the people, the people.